Chapitre 86. Un étudiant à la chevelure emmêlée sort de l'ascenseur au niveau 17, mais Junalina continue jusqu'au dernier étage, le sac isotherme à la main. Il éprouve la sensation que l'on a quand on souffle doucement sur des braises en sachant que les flammes vont bientôt jaillir. Il est ici pour rencontrer Johan Jönsson, un informaticien de la ENOA et l'un des meilleurs experts en informatique d'Europe. Pendant de nombreuses années, on avait surnommé Johan le nerd, jusqu'à ce qu'il crée le programme de décryptage transvector que le MI6 s'est mis à utiliser. Johan Jönsson ouvre la porte, un sandwich à la main, et fait entrer Juna dans l'immense pièce. Juna a accepté de décliner toutes les offres du secteur privé, mais en contrepartie, il a exigé de disposer de l'intégralité du dernier étage de la résidence d'étudiants Nuponet dans la rue Kursbarsvägen. L'adresse fait sourire Juna. Le gratte-cul dans la rue des Cerises. Le local équivaut à 25 chambres d'étudiants identiques à celles qu'il avait occupées quand il étudiait au KTH, l'Institut Royal de Technologie. Toutes les cloisons de l'étage ont été enlevées et remplacées à certains endroits par des poteaux en acier. La pièce est bourrée d'électronique, moderne comme obsolète. Johan Jönsson est un homme assez petit, portant une moustache noire et une barbiche. Il a le crâne rasé, ses sourcils froncés sont broussailleux et se rejoignent à la racine du nez. Il porte un survêtement serré qui ressemble à ceux du Paris Saint-Germain, mais le haut remonte sur son ventre rebondi. Juna sort du sac isotherme, le disque dur contenant les vidéos de surveillance de la maison de William Fock, enlève le plastique à bulles et le tend à Johan. Selon la législation concernant les caméras de surveillance, les données ne peuvent pas être stockées plus de 2 mois. C'est pourquoi les enregistrements sont automatiquement effacés du disque dur une fois passé ce délai. « Il paraît que tu sais récupérer des données effacées, » dit Juna. Effacer, ça peut évidemment vouloir dire effacer, répond l'informaticien. Mais en général, ça signifie simplement qu'on qualifie les données d'effacées alors qu'elles s'y trouvent toujours. Un peu comme au Tetris, l'élément ancien tombe de plus en plus bas. Celui-ci ne date que de 4 mois. Johan Jönsson pose les restes de son sandwich sur un vieil écran poussiéreux et soupèse le disque dur. J'ai bien envie de tester un programme qui s'appelle Underwork Schedule. Il fait remonter toutes les données en une seule et même fois. Ce qui en ressort ressemble un peu à ces guirlandes de papier découpé avec une ribambelle d'anges ou de bons hommes qui se tiennent la main. Une guirlande assez longue, fait remarquer Juna. Dans certaines circonstances, il est en effet possible de récupérer des éléments effacés. Mais comme les 13 caméras chez William Fock ont été installées 7 ans plus tôt, le temps de visionnage total serait de 91 ans. Même l'obstination légendaire de Junalina ne suffirait pas à convaincre Carlos d'engager assez de personnel pour examiner une telle quantité de données. Maintenant qu'il dispose d'une date exacte, rien ne pourra l'arrêter. « Cherche la nuit du 30 avril de cette année, » dit-il. Johan Jönsson s'assied sur un fauteuil de bureau plein de taches et prend une poignée de bonbons dans un bol en plastique. « J'ai une addiction au sucre », lance-t-il par-dessus son épaule. Plus de 40 ordinateurs fixes de différents types encombrent les bureaux, les caissons et la table de cuisine. Des faisceaux de câbles courent sur le sol entre des cartons de déménagement remplis de vieux disques durs. Dans un coin de l'immense pièce, sont entassés des dispositifs électroniques hors d'usage, circuits imprimés, cartes audio, cartes graphiques, écrans, claviers, routeurs, consoles de jeu et processeurs. Juna voit un sommier avec de la literie en désordre posé à même le sol dans un coin derrière un plan de travail abritant des pièces de rechange, une loupe éclairante et un fer à souder. Des bouchons d'oreilles orange sont posés sur un seau en plastique retourné à côté d'un réveil. Johan dispose probablement de moins de place aujourd'hui que quand il était étudiant. Vire l'imprimante de la chaise pour t'asseoir, dit-il à Juna pendant qu'il connecte le disque dur à l'ordinateur principal de la grappe de serveur. On a un enregistrement de la dernière fois où Rex a pissé dans la piscine, mais là, on cherche le 30 avril. Donc, des données qui ont été recouvertes encore et encore, explique Jonah. Et il enlève l'imprimante et un livre de Thomas Pynchon de la chaise. Désolé pour le bordel, je viens juste de connecter entre eux 30 ordinateurs. J'ai utilisé une nouvelle version de MPI. J'aurai une sorte de super ordi sur mesure. La date et l'heure sont visibles en bas de l'image. La façade de la maison et la porte d'entrée fermée sont baignées d'une lumière de lever du jour. Caméra de pointe, capteur de qualité, ultra HD, approuve Jönsson. Jonah lui présente un plan de la maison du ministre sur lequel chaque caméra a été marquée et numérotée de 1 à 13. Alors c'est parti, on y va, murmure Johan Jönsson en pianotant sur le clavier. Les ordinateurs commencent à émettre des crépitements, des ventilateurs démarrent, des diodes lumineuses clignotent en vert et l'odeur caractéristique des trains électriques d'antan, du courant continu et des transformateurs surchauffés se répand dans la pièce. Ça y est, voilà tout le sous-sol qui remonte, lentement comme il faut, dit le technicien en pinçant sa courte barbiche. Sur le grand écran apparaît une image grise, comme de la limaille de fer qui s'organise sous l'action d'un champ magnétique fluctuant. « C'est trop vieux tout ça, » chuchote Jönsson. Des ombres scintillantes surgissent par couches successives, et on devine des parties du jardin. Jonah voit deux silhouettes fantomatiques descendre l'allée d'accès. Le ministre des Affaires étrangères et Janus Mikkelsen de la CEPO. Janus, lâche Jonah. Sa première affectation à la CEPO était auprès du ministre des Affaires étrangères, murmure Johan, et il tape de nouvelles instructions sur le clavier de l'ordinateur principal. L'image disparaît, la maison surgit par moments à travers la brume grise et le jardin enneigé scintille. Pour l'instant, la guirlande est encore pliée, mais là, on va pouvoir la déplier, bonhomme après bonhomme. Le 4 juin, le 3 juin, le 2 juin... Des formes pâles glissent d'un côté à l'autre de l'écran à un rythme rapide, se superposent et s'effacent mutuellement. Ça ressemble à une radiographie sur laquelle des silhouettes humaines se fondent les unes dans les autres, traversent des voitures qui reculent et disparaissent dans le garage. 15 mai, 14, et voici 13 jolies versions du 30 avril, annonce Johan Jönsson d'une voix assourdie. À une vitesse multipliée par 8, il voit le ministre et son épouse quitter la maison à 7h30, chacun dans sa voiture. Une société d'entretien des jardins arrive 2 heures plus tard. Un homme taille la haie, un autre souffle des feuilles mortes. Le facteur passe. Vers 14h, un garçon à vélo observe la propriété depuis la rue en se grattant la jambe. À 19h40, la première voiture revient dans le garage double et les lumières s'allument dans la maison. Une demi-heure plus tard, arrive la deuxième voiture et la porte du garage se referme. Vers 23h, les lampes commencent à s'éteindre et à minuit, tout est plongé dans le noir. Rien ne se passe avant que Rex Müller escalade la clôture et arrive en titubant sur le gazon après 3 heures du matin. À partir de là, on va visionner caméra par caméra en temps réel, décide Jonah en s'approchant. D'accord, on commence par la une alors, répond Jönsson en tapant une commande. Sur le grand écran, la porte d'entrée et le jardin éclairé jusqu'à la grille apparaissent en une image parfaite, d'une netteté absolue. De temps en temps, des pétales roses tombent des cerisiers du Japon et rejoignent leurs ombres dans l'allée pavée.